Code de déontologie, des droits et des devoirs pour les praticiens. D'inspiration libérale et souvent très proche du code des médecins, le nouveau code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est désormais entré en vigueur. S'adressant à tous les praticiens libéraux ou salariés et même aux étudiants, il reste donc à le lire et à le comprendre. Nos premières explications dans ce dossier. Article signé François Sabarly, S-A-B-A-R-L-Y, dans le Kiné Actualité du jeudi 20 novembre 2008. Enfin, plus de 2 ans après la première copie de la commission de déontologie installée par le Conseil national de l'ordre, après avoir été visée par le Conseil d'État et le Conseil de la concurrence et après validation du ministère de la Santé, le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est paru au journal officiel du 5 novembre 2008. Un ensemble de près de 100 articles, largement inspirés du code de déontologie des médecins et de la loi Kouchner de mars 2002 sur les droits des malades que chaque praticien va devoir comprendre et intégrer à son exercice. Le Conseil national et les conseils départementaux vont très prochainement engager des campagnes d'explication sur le texte, mais pourtant, chaque professionnel va devoir le signer et s'engager à l'appliquer dès qu'il l'aura reçu, dans les toutes prochaines semaines. Or, si ce nouveau code apporte un certain nombre de réponses à l'exercice de la masso-kinésithérapie, notamment en recentrant l'exercice professionnel sur le patient, il en laisse aussi d'autres en suspens. Les principaux points à retenir sont les suivants. Un public très large. En premier lieu, le nouveau code de déontologie s'applique à un public très large. En effet, comme le fait remarquer Maître Marion Libert, avocat, il concerne tous les masseurs-kinésithérapeutes qu'ils exercent dans le domaine thérapeutique ou non thérapeutique, et qu'ils soient ou non inscrits à l'ordre, puisque sont visés en pratique tous les actes professionnels de la masso-kinésithérapie. En outre, il s'applique également pour ce qui concerne les devoirs généraux et les devoirs envers les patients aux étudiants. On peut d'ailleurs noter qu'en cas de manquement, ce seront les conseils de discipline des IFMK qui seront compétents. Ainsi que le souligne Thierry Olivier de la FFMKR, faire connaître le code de déontologie aux étudiants et les sensibiliser aux règles de la profession est très important. Le dossier patient. Pour ce qui concerne le patient, le code reprend donc les principes généraux de la loi Kouchner en mettant l'accent sur l'information du patient, son consentement et sur la tenue d'un dossier patient. En pratique, tous les masseurs-kinésithérapeutes vont donc désormais devoir tenir un dossier par patient et assurer la communication de ce dossier. Cette communication devra s'effectuer entre professionnels de santé pour assurer la continuité des soins et entre masseurs-kinésithérapeutes en cas de changement de praticien ou d'hospitalisation du patient, par exemple. Ce qui signifie, dans ce dernier cas, que le masseur-kinésithérapeute traitant devra transmettre le dossier au masseur-kinésithérapeute salarié de l'hôpital ou de la clinique et inversement. La responsabilité professionnelle. Classiquement, le code rappelle que le masseur-kinésithérapeute est personnellement responsable de ses actes, sans faire la distinction entre le praticien libéral et le salarié. Toutefois, précise Marion Libert, il faut ajouter qu'à cette responsabilité pénale et disciplinaire s'ajoute celle pour les MK salariés du fait de l'employeur. Par ailleurs, l'article R. 4321-136 rappelle que le masseur-kinésithérapeute salarié doit être indépendant dans ses décisions, malgré le lien de subordination qui le lie à son employeur. Cette indépendance professionnelle signifie que le masseur-kinésithérapeute doit rester maître du libre choix de ses techniques. Quand un médecin de l'hôpital délivre une prescription à un patient, le masseur-kinésithérapeute salarié doit donc rester libre de la manière dont il va le mettre en œuvre. Cette indépendance professionnelle est identique à celle du masseur-kinésithérapeute libéral. Cette règle signifie aussi que si le praticien doit exécuter un acte qu'il ne juge pas opportun, il peut et doit refuser de l'effectuer sans pouvoir être poursuivi pour faute professionnelle. Rappeler dans le code de déontologie la nécessaire indépendance du praticien salarié est donc une mesure de protection à son égard. Compromis sur la concurrence. pour tous les articles du code ayant trait à la concurrence entre professionnels, le code établit le plus souvent un compromis entre la tendance libérale actuelle et la protection des professionnels. La concurrence entre confrères peut exister, ne doit pas être entravée, mais doit rester loyale. Pour le remplacement, par exemple, il est prévu que le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères pendant au moins 3 mois consécutifs ou non, ne peut pas s'installer en concurrence directe avec le praticien qui l'a remplacé. Cette disposition est sans doute assez stricte, car elle peut dans certains cas dissuader les masseurs-kinésithérapeutes qui ont effectué des remplacements dans une commune de s'installer ensuite dans cette même commune. La première version de cet article par la commission de déontologie était plus souple. En revanche, des restrictions sont apportées par le code à la libre concurrence pour tout ce qui touche aux patients. La rétention de dossiers, par exemple, est interdite. Si le patient souhaite changer de praticien, l'ancien masseur-kinésithérapeute doit même faciliter le transfert du dossier du patient auprès du nouveau confrère. Ainsi, dans toutes les règles du code se rapportant à la concurrence entre professionnels, il est rappelé que l'intérêt du patient doit toujours être préservé. Toujours dans le domaine de la concurrence, 2 autres dispositions sont importantes. La première, article 43.21-131, limite à 4 ans la durée des contrats de collaboration libérale. Les contrats devront être renégociés à l'issue de ce délai. Certains dans la profession estiment déjà que ce délai est trop long, puisqu'il va pouvoir permettre à un praticien installé de profiter, entre guillemets, de cette durée pour développer une clientèle qu'il va ensuite pouvoir céder après avoir résilié le contrat de collaboration. Inversement, on pourrait considérer également que 4 années de collaboration sont suffisantes aux collaborateurs pour se faire un nom auprès de la clientèle et éventuellement de s'installer en profitant de cette clientèle. Sachant que le détournement de clientèle est prohibé par le code, la pratique et certainement les contentieux diront donc comment cette mesure évoluera. La seconde disposition est celle relative au nombre de collaborateurs libéraux ou salariés. Alors qu'un article initial de la commission de déontologie, sans doute un peu maladroit, avait fixé un nombre de collaborateurs autorisés pour les praticiens individuels d'une part et ceux en groupe d'autre part, le Conseil d'État, après avis du Conseil de la concurrence, pour ses raisons de rédaction et au nom de la libre concurrence et de la non-discrimination entre confrères, a supprimé ces limitations. Désormais, tout masseur-kinésithérapeute installé peut exercer avec autant de collaborateurs qu'il le souhaite, sans limitation. Là aussi, il faudra voir quels effets produira cette disposition que certains observateurs dans la profession voient déjà comme la porte ouverte au réseau et aux chaînes de soins. Des questions non résolues. Le texte du code, en revanche, n'apporte pas toujours de réponses concrètes à certaines questions qui se posent dans l'exercice actuel de la profession. Par exemple, pour l'exercice à domicile exclusif, ce mode d'exercice est désormais reconnu par le code de déontologie, mais l'article 43.21-129 indique que le lieu habituel du masseur-kinésithérapeute est celui de sa résidence professionnelle, qui juridiquement et fiscalement peut être son habitation. Alors qu'un autre article fait obligation à un masseur-kinésithérapeute de disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de locaux adéquats. Or, la combinaison de ces 2 dispositions pourrait conduire à exiger des masseurs-kinésithérapeutes qui ne font que des visites à domicile qu'ils aient un local professionnel chez eux. Le code manque donc sans doute de précision à cet égard. L'exercice à domicile exclusif étant assez fréquent dans les zones rurales, il est dommage que le code n'ait pas mieux pris en compte ce mode d'exercice, ajoute Maître Libert. Autre problème, pas totalement résolu, celui de la publicité. Autant les règles dans ce domaine sont assez claires pour l'activité thérapeutique, toute publicité pour l'activité est dans ce cas interdite. Et pour l'activité non thérapeutique, la publicité étant dans ce cas libre, mais soumise pour avis au CDO. Des questions restent posées en cas d'activité mixte. Ce qu'il faut retenir, c'est que la publicité pour le bien-être ou le non-thérapeutique, en général, ne doit pas avoir de retombées sur l'activité thérapeutique. Rappel Alain Poirier qui a travaillé sur ces dispositions au sein de la commission de déontologie. Oui, mais voilà. Comment faire, par exemple, lorsque le thérapeutique et le non-thérapeutique sont exercés dans les mêmes locaux? Il y aura certainement des cas difficiles à gérer, avoue Alain Poirier. Mais là encore, la pratique et sans doute certains contentieux permettront d'affiner les dispositions du code dans ce domaine. D'ailleurs, et c'est sans doute aussi un petit reproche que certains feront au code, l'activité thérapeutique et non thérapeutique ne sont pas toujours bien distinguées dans le texte. Notamment, un praticien qui ne fait que du non thérapeutique a-t-il la même obligation de formation imposée par le code d'un masseur-kinésithérapeute avec une activité thérapeutique? Peut-il également satisfaire à l'obligation déontologique de permanence des soins et assurer des gardes dans les mêmes conditions qu'un autre confrère? Les gardes et la permanence des soins dans le nouveau code visent en effet tous les praticiens sans distinction. De même aussi, certains aspects de la profession ne sont pas totalement pris en compte, comme l'ostéopathie en particulier. Peut-on s'associer dans un cadre thérapeutique avec un praticien ostéopathe exclusif? Au total, une certaine pratique sera donc nécessaire pour y voir plus clair dans certaines dispositions du code. Et s'il y a des contentieux, la jurisprudence permettra également d'élucider des problèmes en suspens. Mais dans tous les cas, ce code de déontologie est fondateur pour le respect de l'éthique professionnelle et des droits et devoirs envers les patients, estime Marion Libert. Une nouvelle responsabilité professionnelle pèse d'ailleurs dès maintenant sur les épaules de tous les masseurs-kinésithérapeutes. Car, bien entendu, en cas de manquement ou de faute, des sanctions disciplinaires pourront s'ajouter aux sanctions pénales déjà encourues. C'est la règle du jeu. Point de suspension. Petit encart, les contrats de collaboration ainsi que tous les contrats qu'un masseur-kinésithérapeute a conclus, contrats de travail, d'association, etc., devront être mis en conformité avec les dispositions du Code dans un délai de 2 ans. Cet article est suivi d'une interview de René Couratier, COURATIER, président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Question, le texte définitif est-il conforme à ce que souhaitait la commission de déontologie qui a été mise en place? Réponse, vous savez, ce code est une révolution pour notre profession. Globalement, il est conforme aux souhaits de la commission. Seuls 2 articles ont disparu sur près d'une centaine au total. Mais le code de déontologie doit évoluer dans le temps, rien n'est figé. Question, comment le code va-t-il être diffusé auprès des praticiens? Il sera envoyé, selon les cas, soit directement par le Conseil de l'Ordre national, soit par les conseils départementaux. Le masseur-kinésithérapeute devra en prendre connaissance et renvoyer à son conseil départemental dans les 3 mois une déclaration sur l'honneur selon laquelle il s'engage à le respecter. Cela étant, le code s'applique légalement 48 heures après sa sortie au journal officiel et donc y compris aux confrères qui n'adresseraient pas leur déclaration sur l'honneur. Question, de nombreux articles du code méritent des explications. Allez-vous les fournir aux confrères et comment? Réponse, oui, nous allons rapidement entamer des actions pédagogiques pour expliciter le nouveau code. Les conseils départementaux seront mobilisés et dès le premier bulletin du CNO de janvier, nous commencerons à approfondir certains articles ou groupes d'articles pour que chacun prenne conscience qu'il est nécessaire que ce code vive et soit respecté.